Bonjour, c'était juste pour confirmer les, comment dire, tester les le numéro du répondeur en attendant de vous laisser un message. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.
Bonjour, c'est Françoise de Paris. Bon, j'entends tous ces camarades chiliens qui sont très contents d'avoir une femme au gouvernement et qui nous disent que nous, en France, on n'en fait même pas la même chose alors que nous, on n'est pas machistes. Mais je pense que là n'est pas la question. Je vois pas pourquoi une femme ferait mieux qu'un homme, un homme ferait mieux qu'une femme. Faut arrêter cette espèce de, comment dire, de naïveté qui fait croire qu'une femme ne ferait jamais aussi pire qu'un homme. On a eu des exemples dans l'histoire, tout le monde en a dans la tête. Alors là, elle n'est pas le problème c'est le programme et qu'est-ce qu'elle va faire pour le Chili. Et ça, j'aimerais bien en entendre parler. Voilà. Merci, à bientôt.
Salut Daniel dans le Gers. Ben, je suis en train d'écouter l'émission et j'aimerais bien dire à Michel Taillefer, là, cette qui est très intelligent apparemment, qu'effectivement il faut que les Maorés restent à Mayotte, que les Anjouanais restent à Anjouan et peut-être que les gens de Millau restent à Millau. Ce serait peut-être beaucoup plus simple comme ça. Ce grand raisonneur la ferait bien d'essayer de se trouver un boulot de sécurité à Millau. Ça simplifierait peut-être la vie des gens de Mayotte et d'Anjouan. Amical, salut à tous.
Alors, je voulais me féliciter que les incendiaires de véhicules soient bien attrapés et bien mis en prison. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce propos en Alsace. Donc, dans la région de Colmar, une enquête en flagrance pour destruction de biens par le feu a été ouverte après que le maire d'Enzisheim, Haut-Rhin, a fait détruire mercredi un camp de nomades roumains et croates. Le procureur de Colmar a, lui, précisé que la destruction de 14 caravanes stationnant illégalement sur un terrain municipal de la commune ne pouvait avoir lieu que dans le cadre légal d'un référé. Or, le tribunal n'a été saisi d'aucune demande en ce sens. Le maire aurait lui-même mis le feu à une épave avec un chiffon enflammé et aurait donné des instructions pour que les autres caravanes soient transportées sur le brasier. Il pourrait être poursuivi comme auteur ou co-auteur de destruction de biens par des substances enflammées, un délit puni d'un maximum de 10 ans de prison et de 150 millions d'euros d'amende. Merci l'Est républicain pour une fois que je l'achète. Ah là là, ces destructeurs de véhicules privés, c'est bien qu'on les mette en prison. Allez, au revoir.
Oui, bonjour. Je suis membre du GRDC, groupe de réflexion sur le devenir des Comores, association loi 1901, déclarée à Mayotte. Les Comores détiennent un triste record, une vingtaine de coups d'État ou de tentatives de coups d'État en 30 années d'indépendance. Pourquoi ? On va tenter d'y répondre. En 1975, les lobbies coloniaux vont convaincre M. Jacques Chirac, Premier ministre d'alors, de faire voter le 3 juillet 1975, donc à l'Assemblée nationale française, une loi qui va conditionner l'indépendance des Comores à l'acceptation de chacune des quatre îles d'un projet de constitution. Les Comores sont alors un territoire d'outre-mer, doté de l'autonomie interne. La Chambre des députés des Comores va comprendre le message et comprendre que Mayotte va refuser de voter cette constitution, et la France avait donc octroyé l'indépendance des Comores officiellement aux trois îles seulement. Le 3 juillet, donc 3 jours après cette loi de l'Assemblée nationale, 3 jours après, les députés des Comores vont déclarer unilatéralement l'indépendance des Comores à l'unanimité, sauf les députés de Mayotte. C'est le grand choc. L'indépendance qui était prévue dans l'amitié et la coopération avec la France, je cite, tourne au vinaigre. Il faut bien comprendre la portée d'une telle déclaration, parce que ni l'Algérie avec sa guerre de libération nationale qui a duré de 74 à 72, ni la Guinée de Sékou Touré avec son célèbre nom à la France n'avait ainsi, si j'ose dire, humilié la France en déclarant unilatéralement l'indépendance. D'ailleurs, les deux premiers pays qui vont reconnaître les Comores sont la Chine de Mao et l'Algérie de Boumediene. Moins d'un mois après la déclaration de cette indépendance, donc le 3 juillet, moins d'un mois après le 3 août 75, on va assister au premier coup d'État et à l'entrée en scène du fameux Bob Denard. Alors beaucoup de gens pensent que la déstabilisation permanente des Comores, qui est souvent passée d'ailleurs par Mayotte, c'est une punition, une sorte de punition qu'inflige la France à ce petit pays qui a osé proclamer unilatéralement son indépendance. Alors la question, c'est plus de 30 ans après, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette faute, entre guillemets, a été largement payée? Merci beaucoup et à très bientôt.
C'est bien possible ce que dit cet auditeur, ce message laissé dans le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. C'est bien possible. On nous a très souvent parlé de l'entourloupe de 1975, de la magouille de l'indépendance et de Bob Denard. Eh oui, Bob Denard. Et bon, on n'en parlera pas de Bob Denard. C'était pas le sujet de nos reportages à Mayotte et dans les Comores, mais c'est vrai que tout ça est très très important, enfin a joué un rôle extrêmement important dans cette histoire, en grande partie compliquée, et qui effectivement ressemble assez souvent à une entourloupe et à une magouille. On verra dans les semaines qui viennent ce que la mission parlementaire que nous avons rencontrée là-bas dira, et quelles seront ses prescriptions et ses conseils, et ce sera intéressant à suivre. Donc aujourd'hui, on continue, mais là on se fait une petite balade, on se fait une petite récré pendant une journée. On va se balader, mais là c'est très difficile pour nous parce que c'est un endroit qu'on a tellement aimé, qu'on a trouvé tellement formidable et beau et tout ça, qu'on voudrait vraiment pas que vous y alliez. ou alors c'est vraiment de vous à nous, de bouche à oreille. Et voilà, c'est la condition que vous le répétiez pas. Voilà, on va aujourd'hui à Moéli, c'est une des îles des Comores, c'est un endroit absolument formidable, merveilleux, très très pauvre, c'est vrai, mais merveilleux. Et on part ensemble aujourd'hui jusqu'à 18h, à condition que vous ne répétiez à personne l'endroit où nous allons après les messages que voici sur le répondeur de la base. J'y suis, je répète le numéro 01 56 40 37 37. J'oublie une chose importante, c'est Mohamed, le chauffeur de taxi, qui a parlé de cette histoire d'un garçon, un petit garçon de son village, qui a été tué lors d'un Paris-Dakar, et qui, dont le message vous a beaucoup ému. Alors il avait voulu qu'on laisse son numéro de téléphone. Vous avez très nombreux à l'appeler, et Mohamed, il est un peu affolé parce que il se demande quoi faire, il sait pas comment faire une association, porter plainte, faire une pétition, etc. Alors je suis sûr que parmi les auditeurs de la base, j'en suis certain, il y a ceux qui savent faire ça, qui savent comment on organise ce genre de choses. Alors vous pouvez appeler Mohamed, je répète son numéro, c'est lui qui demande qu'on répète son numéro, c'est le 06 80 42 61 56, 06 80 42 61 56, et il a un mail qui est lguarni@hotmail.fr. Lguarni, ça s'écrit L-G-U-A-R-N-I, tout attaché, hein, L-G-U-A-R-N-I, tout attaché, @hotmail.fr. Voilà, en route.
Bonjour, Sophie de Tours. Une petite devinette. Qui suis-je? J'accompagne vos enfants au collège, au lycée, général, technologique et professionnel, et je les aide à réfléchir à leur centre d'intérêt, leurs valeurs, leur personnalité, en les recevant individuellement. Je participe aussi au conseil de classe pour donner une image plus globale de votre jeune aux enseignants et pas seulement une image d'élève. J'effectue des bilans psychologiques pour repérer les difficultés et les compétences des enfants. J'informe mes parents sur le fonctionnement du système scolaire. Bref, je fais tout plein de choses. Qui suis-je? Je suis une conseillère d'orientation psychologue débutante qui a choisi ce métier pour aider les jeunes à trouver une formation en rapport avec ses désirs et ses possibilités. Malheureusement pour eux, tout ça c'est bientôt fini, puisque le recrutement des conseillers d'orientation est bientôt fini, que les CIO, centres d'information et d'orientation de France, la moitié vont être supprimés. C'est donc bien le service public gratuit d'information et d'orientation qui disparaît, et les jeunes n'auront plus qu'à choisir une formation en fonction des besoins, c'est-à-dire les besoins en BTP, hôtellerie, restauration, etc., plutôt qu'en fonction de leurs souhaits et de leurs possibilités. Voilà, une fois de plus, dans notre société, ce sera tant mieux pour ceux qui seront bien nés. Au revoir.
Bonjour, et ben voilà un message pour annoncer les états généraux de la santé et de l'assurance maladie en Limousin, le 21 janvier 2006, à l'hôtel de région de Limoges, sur 4 thèmes, principalement autour des conditions de la santé, santé et territoire, santé comme produit d'économie et l'accès aux soins. Voilà, c'est ouvert à tous. Inscription recommandée auprès de la Maison des droits de l'homme au 05 55 35 80 24. Voilà, et puis la veille au soir, en ouverture, conférence débat avec Patrick Alou d'Attaque France sur la santé n'est pas une marchandise, salle Blanqui à Limoges. Merci, 20 janvier, 20h30. Au revoir.
Salut à tous, Patrice dans les Pyrénées-Audoises. J'appelle pour donner des nouvelles du repère des amis de là-bas si j'y suis, de la Pradelle Puyrens. La troisième rencontre a eu lieu le vendredi 6 janvier. Les principaux thèmes abordés ont été les OGM, le nucléaire et l'effet de serre. Un autre point non moins crucial fut également débattu, la fréquence des rencontres des amis de là-bas si j'y suis. Le mois écoulé entre les deux dernières rencontres nous étant apparu comme étant une trop longue période. Les rendez-vous des amis de là-bas si j'y suis ont été fixés au premier et au troisième vendredi du mois. La prochaine rencontre aura donc lieu le vendredi 20 janvier à 18h30. C'est toujours chez Tino, au bar du château de La Pradelle puis Lorraine dans l'Aude. Toutes et tous sont les bienvenus. Merci, à bientôt. Ciao.
Tenemos falta la mañana.
¿Cómo ir? ¿Más o menos?
¿Cómo se siente el malecao?
Casi ya.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil, la nuit des tortues.
Flight number 2, arriving.
Mare, la tua ni komori, zawa komori.
Le reste du temps qu'elle peut amener.
C'est l'épicier.
Ah, c'est le petit épicier qui est en face de la mosquée. Ouais. Hein? Alors, dis-moi, c'est absolument extraordinaire, hein, cet endroit-là où on est, cette nuit.
Et là, exactement, on est à Itzamia, un village qui se trouve à l'est de l'île de Moélie. Et l'île de Moélie fait partie de l'archipel des Comores, qui est situé dans le canal de Mozambique, à mi-distance entre l'Afrique et le Madagascar.
Là, on voit le géographe là, qui parle. Hein?
Ouais.
Et c'est le village où tu es né?
Voilà, c'est mon village natal. Je suis natif d'ici.
Ouais.
Et Itzamia est reconnu pour la pointe des tortues marines.
Pour la pointe des tortues. On va aller voir la pointe des tortues. Mais en attendant, c'est formidable. Hein, cette nuit, ici dans le village, il n'y a pas d'électricité.
Non.
Voilà, là, il est...
Les gens en mode, disons, traditionnel.
Ouais,
lampes à pétrole, comme
beaucoup
tu l'as constaté.
Beaucoup de cases en terre.
Oui, en terre battue, oui. Et même en feuilles de cocotier, il y en a.
Feuilles de cocotier, terre battue et quelques-unes en dur.
Quelques-unes en dur.
Alors,
l'image de la mosquée.
Il y a des frères.
Une belle filante.
Ah ouais.
Parce qu'il faut dire, en plus, comme il n'y a pas de lumière, comme tout le village est dans le noir, à part quelques petites lampes à pétrole, la voûte étoilée, l'hémisphère sud en plus.
J'ai jamais vu une voûte étoilée pareille.
C'est ça l'éclairage municipal en fait.
Nuit magique aujourd'hui, nuit magnétique. Vous avez compris, Fanny vous l'a dit, Fanny il est géographe et on est dans son village à Itzamia, au sud de Moélie, l'une des îles des Comores. Et alors c'est vrai que c'est vert, c'est vierge et c'est très très beau, c'est très très beau Moélie. C'est très très pauvre et très très beau à la fois. Et 290 km², l'île, 35 000 habitants. Et on est vraiment dans la serre du Jardin des Plantes. Vous voyez la serre du Jardin des Plantes, ben vous agrandissez ça à la taille d'une île et c'est Moheli. Alors, vous avez vu, on a parlé beaucoup de, parmi les trois îles des Comores, de l'Union des Comores, on a parlé de Grande Comore, on a parlé d'Anjouan, on a très très peu parlé de Moheli, parce que Moheli, cette île-là fait parler beaucoup moins d'elle. Les habitants de Moheli sont moins enclins à partir vers Mayotte. Beaucoup, évidemment, se sont exilés, mais beaucoup moins que dans les Grandes Comores. Non, ils sont chez eux, à Moheli, et encore une fois, je le répète, c'est très très pauvre, mais on vit là, c'est là qu'on vit. On est chez soi. Et chez soi, eh bien, on essaye de faire du développement communautaire, c'est-à-dire que ces petits villages, ces petits groupes d'habitants essayent de développer l'agriculture, qui telle ou telle activité, ou bien, comme là, le tourisme. Alors, c'est un tout petit tourisme, écotourisme, qui se développe, vous allez voir dans quelle proportion, à Itsamia, autour des tortues. Parce que voilà, les tortues viennent pondre ici, sur ces plages. Quand on se lève le matin vers 6h, 6h30, c'est magnifique, on va se baigner, et sur la plage, on voit des traces. On se dit, ah tiens, ils doivent avoir des engins avec des grosses roues pour emmener les pirogues jusqu'à la mer. Eh ben non, pas du tout. Ces traces sur la grève, sur le sable, c'est les traces des tortues, des pattes des tortues qui ont laissé ces traces au cours de la nuit. Car au cours de la nuit, par dizaines, parfois plus encore, les tortues marines viennent sur ces plages et dans les broussailles au haut de la plage. Eh bien, elles viennent pondre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la nuit des tortues. C'est dans là-bas si j'y suis. Et c'est jusqu'à 18h. Tu dis que c'est touristique, il y a combien de touristes qui viennent ici chaque année?
Bon, ça dépend des circonstances. Hein. Ce qui est sûr, on n'est pas en dessous d'une centaine par an.
Une centaine de touristes par an? Ouais. Ça reste encore raisonnable.
Vous avez même constaté que les gîtes que l'association des villages a mis en place, il y a juste deux chambres.
Oui, ça va encore.
On a encore un travail à faire.
Mais vous n'avez pas peur de perdre votre âme dans cette histoire?
Non, pas du tout, étant donné que c'est tout le monde qui s'engage, c'est tout le village, c'est tous les villageois, hommes, femmes, jeunes. Donc c'est un travail d'une équipe. Et là, depuis 90, progressivement, maintenant, il y a eu un engouement au niveau même insulaire. Chaque village, il y a une association communautaire qui œuvre justement pour le développement communautaire.
Mmh. Le développement communautaire, là ici, c'est un peu de tourisme, mais c'est d'autres formes de développement ailleurs.
Hein. Oui, ailleurs.
Chaque village s'essaye à un développement communautaire. C'est dans quel domaine, par exemple?
Ça dépend de ses ressources naturelles, mmh, de ce qu'il protège. L'élevage, le maraîchage, la culture d'oignons,
les oignons,
tomates, d'autres qui cultivent les bananes. Mm-hmm. Donc c'est très divers.
Mais comment t'expliques quand même que des trois îles des Comores, ici à Moheli, vous êtes ceux qui ont le moins envie de partir vers Mayotte?
Bon, cela s'explique par plusieurs raisons, étant donné que le Mohélien de nature, lui, n'est pas voyageur. Ça, mm-hmm, c'est un. Mm-hmm. Mais là, s'ajoute que Moheli est le grenier des trois îles, où il fait beau vivre, il y a encore de la place, il est peu habité, il a la verdure, il y a encore des terrains pour exploiter, l'élevage marche bien, l'agriculture,
Donc, la terre est bonne.
Et aussi, elle est disponible.
C'est magnifique, là. On est en train de marcher dans la, presque dans la totale obscurité. Pas tout à fait totale, quand même, hein. C'est plein d'ombre, quelques lumières. Il y a une dame qui avant. Ah, ben, c'est chez toi, là.
Ouais.
Enfin, ça va être chez toi, ouais, parce que c'est ta future femme.
Oui, oui.
Qu'on a vu passer avec sa petite lampe.
Les femmes qui préparent le...
Ah oui, elle prépare à dîner.
Elle prépare à dîner.
Alors ça c'est les piments. On est en train d'écraser les piments sur une pierre avec une autre pierre ronde. À toute vitesse, elle écrase les piments. Elle fait une pâte. Ça sent très très bon. Là, il y a une autre dame qui est en train d'éplucher des papayes, de préparer des papayes. Voilà, si on met un peu de sel pour les piments. Voilà. Et puis après, là-bas, en contrebas, il y a, dans une friteuse, avec de l'huile de palme, on fait des beignets de banane verte. Et puis après, il y a un autre feu, là-bas, avec des ailes de poulet, je crois, de la viande. Donc ça, c'est délicieux, les odeurs... de tous les côtés. Et alors c'est un vrai bonheur, c'est des moments heureux, quoi, tout simplement. Ça sent bon. Ça sent bon. Les petites lampes à pétrole, elles amènent des plats. Elles montent un peu la lampe.
C'est des bananes frites.
Oui.
On fait des courses au marché avant de venir, quand même.
Ah oui,
avec les mains vides.
Ouais.
Là, elle t'a vu, c'est là la cuisine, c'est dans la cour. Quelques petites branches de bois posées à même le sol, avec la grosse marmite dessus.
Voilà. Voilà les verres. Voilà de l'eau.
Le menu de ce soir, c'est thon, le petit bout de thon qu'on a trouvé, et puis les ailes de poulet.
Parfait.
Il y a des ailes de poulet, quand même, dans les Comores, c'est le symbole de raffinement, quoi, quand on dit que les Anjouanais ils vont à Mayotte pour manger des ailes de poulet.
C'est le foie gras, quoi.
Voilà, c'est le caviar.
C'est le caviar du coin. C'est un crabe extraordinaire, la vitesse à laquelle les crabes comme ça se déplacent. Bon, voilà un autre. Ah, c'est fou. Ah, il y a des traces là. Ça c'est une tortue qui vient de passer.
Ouais, c'est une tortue qui vient de monter.
Elle vient de monter, donc elle est là. Elle est là.
On va voir.
On va suivre les empreintes. Un crabe qui saute. Ah, c'est marrant, sur le sable. Ça fait des traces. Comme un engin, comme un truc à deux roues qui serait passé. Là, on est en train de remonter les traces.
Éteindre la lampe.
Il faut éteindre.
Ouais, parce que si on l'éclaire,
avant qu'elle commence sa pointe, elle fait demi-tour. Donc c'est un stress, la lumière.
La lumière la stresse.
Ouais. Et donc on la laisse, on continue, on va voir d'autres.
D'accord, on la verra au retour.
Ouais, on la verra au retour.
C'est énorme.
Les oeufs, elles sont énormes, ces tortues. Hein?
Ouais, mais là, c'est... elle n'est pas très grande, il y a plus grande que celle-là.
Ah ouais?
Ouais.
Qu'est-ce que tu vois?
J'avais vu comme une trace de bébé tortue.
De bébé?
Tu vois, les marée haute plutôt, c'est là où on voit les tortues. Donc aussi, les bébés tortues profitent la marée haute pour diminuer le trajet, la trajectoire, parce que... il y a beaucoup de prédateurs qui les attendent.
C'est quoi les prédateurs, par exemple?
Par exemple, le crabe, chat, sauvage, héron, frégate, corbeau et tout. Bon, en fait, on prend un raccourci pour aller à la plage des tortues.
Alors, on prend ce petit chemin. Alors c'est pas rien les tortues, hein. À Isamia, c'est pas rien la tortue. Vous allez voir l'importance que prend la tortue pour aujourd'hui pour les habitants de ce petit village de Moëli. Mais évidemment que depuis toujours et un peu partout, la tortue est un animal mythique, bien évidemment. Et ici, dans les Comores, il y a eu un temps avant la venue des hommes, avant que les hommes n'arrivent sur cette planète et sur cet archipel et sur ces îles et sur cette île en particulier, donc avant, au temps où les poissons parlaient, et ils s'entendaient très bien les poissons, tout se passait bien, un jour quand même l'un des poissons s'est inquiété. Il a réuni les autres poissons, ses collègues poissons de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et il leur a dit « Mais qu'est-ce qu'on ferait si un jour il y avait une famine ?» Il faut bien dire qu'une grande partie des poissons qui étaient là n'avaient jamais entendu un mot pareil. Certains avaient entendu dire que ça pouvait exister. Ils ont expliqué aux autres que c'était que la famine, et tous se sont inquiétés. « Ah oui, qu'est-ce qu'on ferait si il y avait une famine ?» Alors, ils ont réfléchi, puis ils ont dit, on se bouffera entre nous. Voilà, on se bouffera entre nous, et ce serait le plus gros et le plus fort qui l'emporterait. Voilà. Et là-dessus, ils sont retournés dans la mer, nager, parce que oui, et c'était une époque où les poissons, de temps en temps, se sortaient de l'eau, se mettaient au soleil et parlaient. Donc, après cette conversation, ils ont rejoint les flots tièdes de... la mer autour de Moëli, et quand même ils étaient assez alourdis par cette perspective qu'un jour, si la famine venait à sévir, il faudrait se bouffer entre soi, les gros mangeraient les petits, les très très gros mangeraient les gros, et les plus méchants mangeraient les très très gros. C'était une perspective assez fâcheuse. Et c'était une époque, donc, où, je vous ai dit, avant que les hommes n'apparaissent sur la terre, où les tortues dansaient. Les tortues dansaient, oui, les tortues étaient extraordinaires. C'était des animaux qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez voir aujourd'hui ou même imaginer. C'était, voyez, des danseuses, imaginez des danseuses d'une habileté, d'une grâce absolue, qui la nuit était lumineuse. Vous imaginez quelque chose comme ça, voilà ce qu'étaient les tortues. Et elles étaient évidemment admirées, convoitées, et tout le monde admirait les tortues. Il y avait une inquiétude dans le monde des poissons avec cette perspective, depuis que quelqu'un avait eu cette idée de demander ce qu'on ferait si la famine venait à sévir. Et on a éprouvé le besoin de se réunir à nouveau, on s'est mis sur les pierres, vous savez ces pierres volcaniques, comme il y en a beaucoup dans ces îles, on s'est mis là un peu au soleil. Et quelqu'un, je ne peux vous dire exactement lequel de ces poissons, a dit « je pense que ce serait mieux ». Au cas où la famine viendrait à sévir, le mieux ce serait qu'on bouffe les tortues. Ah, formidable! Formidable, ils ont senti un apaisement parmi eux, parce qu'on se mangerait plus entre soi, on mangerait quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Une autre... voilà. Et il y avait des tortues qui étaient là, deux ou trois tortues, qui étaient justement en train de danser et de... avec une grâce infinie sur cette plage ce matin-là. Et...
Les tortues ont entendu ça. Ah, vous avez entendu. Et elles sont devenues... La frayeur s'est emparée d'elles. Et elles ont dit... Mais c'est terrible, ce que vous dites là. Et les poissons disent, bah, ils me regrettent, c'est nous qui avons pris la décision. Vous êtes un peu nos boucs émissaires, même si les boucs émissaires n'étaient pas encore inventés. Mais voilà, c'est des gens très en avance, vous savez, sur ces îles. Et les tortues étaient paniquées. C'était un très grand désarroi parmi les tortues. Et l'une d'elles a dit, en s'adressant aux poissons, c'est comme si vous disiez que Dieu n'était pas là. Et à ce moment-là, vous savez quoi ? Dieu qui est justement était là, contrairement à ce qu'avait dit cette tortue, Dieu qui était là a envoyé des carapaces pour protéger les tortues. Et depuis ce temps-là, les tortues ont des carapaces. Les poissons n'ont jamais réussi à manger les tortues. Mais vous voyez, quand on est pris comme bouc émissaire par un autre groupe, eh bien, on devient une tortue. Et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce et d'agilité et de beauté pour le reste du monde.
Crabe poilu.
Comment tu l'appelles ?
Crabe poilu.
Crabe poilu ? Oui. Ça se mange ?
Ouais, ça se mange. Mais ici, on n'a pas l'habitude de manger les crabes de commande.
Je crois qu'on a pas de voler là.
C'est un chauve-souris.
Ah, il y a des chauves-souris énormes ici. Il y a
des battements
d'ailes là. Des roussettes. Alors dis-moi, où est-ce qu'on arrive là ?
J'ai dit, on est arrivé à la plage des tortues.
Uh-huh.
Tous les trous que vous voyez là, ces grands trous, ce sont des nids des tortues.
Ah d'accord.
Voilà. Alors, il n'y a jamais eu un tracteur ici, ni on n'extrait pas le sable. Mais tous ces trous que vous voyez là, ce sont des tortues qui ont déjà pondu là. D'abord, s'il vous plaît, vous éteignez votre lampe. Ouais. Bon, donc aux Comores, il y a deux espèces de tortues qu'on peut voir ici. C'est la tortue verte et la tortue imbriquée. La tortue verte, c'est la plus répandue, mais la tortue imbriquée, on le voit rarement. L'exemple en est qu'on a bagué 5200 tortues.
Oui.
Et donc 7 simplement sont imbriquées. Et donc, pourquoi nous on protège la tortue ? Avant, c'était l'idée de protester contre des pilleurs qui venaient piller des ressources qui appartiennent à notre village. Mais plus le temps évolue, on a deux autres idées nouvelles, disant que c'est une espèce en voie de disparition, donc on doit protéger. On aimerait que tout le monde ait la chance de voir une tortue, qu'ils soient nous maintenant et aussi ceux qui viendront après nous. Donc, ça fait déjà 23 ans qu'on protège ces tortues. Et donc, les résultats sont là, ils sont concrets. Avec tous les progrès qu'on a fait, de sensibiliser, d'impliquer tout le monde dans la cause. Et donc, ça fait que maintenant, on est à peu près à 90% de réussite dans le domaine. Pour faire un peu l'historique de la tortue, maintenant on est à 20% de la population mondiale de tortues, c'est-à-dire le 80% est déjà disparu. Pourquoi ? Parce que les grands sites du monde est menacé. Donc il reste peu d'endroits qu'on trouve la tortue verte dans le monde à l'heure actuelle. L'exemple en est que toutes les îles de Comores avaient des tortues. Mais maintenant, il ne reste que Mouéli et Mayotte. La Grande Comore, on ne voit pas de tortues en juin non plus. Et à Moélie, il y a 49 sites de ponte de tortues.
Ah, ici, il y a 49 sites de ponte.
Ouais. Mais Itsamea dispose 5 sites, c'est-à-dire 5 plages. Et donc, la particularité qu'il y a Itsamea avec les autres 42 sites qui restent, c'est qu'à Itsamea, tu verras en moyenne 10 tortues montées par nuit durant toute l'année.
Ouais.
Mais les mois les plus fréquentés, avril, mai, juin, juillet, août, tu peux voir même au-delà de 100.
Ah oui.
Parce que le pic de cette année 2005 était en une nuit 152 tortues.
Et elle pond combien d'œufs?
Bon, en moyenne, la tortue pond 150 œufs par ponte.
Par ponte? Ils sont gros comment les œufs?
Comme la balle de ping-pong.
Ah d'accord, voilà. Ouais, ouais. Alors elle arrive là et elle pond 150 balles de ping-pong.
Ouais. Et donc, elle pond 4 fois par saison de ponte. Et quand elle a pondu les 4 fois, elle prend un repos reproductif de 3 ans. Et c'est la 4e année qu'elle reviendra pondre.
Elle reviendra sur la même plage?
En fait, la première ponte de la tortue, elle le fait là où elle est née.
Ah oui?
La tortue commence à pondre à 40 ans. Ah, avant 40 ans, elle ne pond pas.
Et donc, ça vit combien de temps une tortue?
Un siècle et demi en moyenne.
150 ans?
Oui.
Mais ici, sur cette plage-là, il n'y a aucun touriste, il n'y a aucun...
En fait, la plage des Tortues, c'est un site protégé. Tu peux venir dans la journée, tu peux faire tout ce que tu veux, mais à partir de 18h, tu ne peux pas être ici seul. C'est un problème de sécurité parce que les braconniers qui débarquent ici, on ne sait pas s'ils peuvent être violents.
Agressifs.
Tu ne sais pas où replier en tant qu'étranger.
Mais les braconniers, ils veulent quoi? Ils cherchent quoi, les braconniers?
La viande et les œufs.
Les œufs de tortue, on les mange comment?
On fait de gâteaux, des omelettes.
Ah, ouais.
Ouais. Ici, à Itsamea, je te rassure que personne ne fait ça. Bien. Mais ailleurs, je te garantis pas.
Les ombres portées par la lampe de poche, là, c'est superbe, c'est une vraie nuit. Là, voilà des traces à nouveau.
Là, elle est en train de creuser le puits de ponte.
Ouais.
Donc là, on la laisse parce que si...
Elle, c'est énorme, dis donc. Hein. Elle mesure combien, tes tortues?
1 mètre, la plus grande mesure 1,20 m de carapace.
De diamètre, enfin oui.
Non, de carapace.
Ah oui, c'est ça, oui, là. D'accord, 1,20 m, c'est quand même pas mal. Hein.
Ça pèse combien?
350 kilos.
Ça, c'était une tortue verte, ça?
Ouais.
Lui, un petit zigzag, là.
Ouais.
Alors, voilà, je suis arrivé à notre trace.
C'est loin de la mer, quand même, hein?
Pour nous, la tortue, c'est pas un animal.
Ah!
Notre idéologie de l'association, nous, on personnifie la tortue. C'est-à-dire, s'il y a une tortue qui est morte, ça veut dire qu'il y a un grand ami qui est mort.
Oh là!
Oui, parce que pour nous, maintenant, la tortue, c'est... Physiquement, c'est un animal.
Ouais.
Mais moralement, c'est pas un animal. Je peux pas dire que c'est une personne, mais en fait, c'est un ami. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'on œuvre pour qu'elle soit ici. Tu vois ce que je veux dire?
Dans les mythologies des Indiens du Québec, le monde repose sur le dos d'une tortue.
Et en Inde?
Oui, il y a beaucoup d'histoires de tortues.
La tortue, dans la mythologie indienne, sur l'océan de lait, Bharat, le lait, et en fait du beurre.
Et alors, nous, on a vu au Bénin un prêtre vaudou qui marchait sur l'eau. Alors, on lui dit, mais comment tu fais pour marcher sur l'eau? Alors, il a dit, ben voilà, parce que j'ai des pouvoirs, etc. Et puis, on lui a reposé la question quand même, parce que nous, on est des journalistes très malins, et on peut pas nous raconter n'importe quoi, tu vois. Et là, il a fini par avouer, en rigolant, que c'est pas... Parce qu'il marchait sur une tortue.
Mmh. Il se posait sur une tortue et la tortue elle nage. Il donne l'impression de marcher sur l'eau. Il y a beaucoup d'histoires de tortues. Mais les tortues, elles ont une grande, grande vertu. Je ne sais pas les tiennes, là, ici. Mais chez nous, les petites tortues qui font 10, 15 cm. Mais j'en avais quand j'étais enfant, parce que moi, j'étais asthmatique. Alors, on disait que quand tu as une tortue, tu n'as plus d'asthme. Alors, c'est bien qu'il y en avait dans la maison, j'en avais dans mon lit. J'avais des petites tortues dans mon lit. Et effectivement, ça calmait le...
Il y a des gens même qui qualifient la tortue comme le dépité. Comme l'élu du village, tu vois. Parce que c'est à cause des fréquentations des touristes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à venir avec leur voiture, qui gueulent. Et puis, Itzamia a eu la route goudronnée. Il n'y avait pas le téléphone. Maintenant, il y a le téléphone. Et là, on a l'internet à Itzamia. Donc, on dit que c'est...
Tout ça, c'est grâce à la tortue.
Oui, c'est la tortue. Donc, c'est pas tout simplement... un animal, mais aussi c'est un élu.
On y va ?
La vérité.
Dis donc, c'est vraiment une île parfumée, hein, parce qu'on sent des parfums de temps en temps.
Ouais, en fait, ce sont des odeurs naturelles.
Ah ouais, c'est. Oui, mais c'est ces odeurs, c'est des parfums, quoi. C'est joli, tu vois.
Voilà, quand la tortue est en train de pondre, tu peux l'approcher, tu peux la toucher, tu peux photographier, tu peux tout faire.
Elle pond là ?
Ouais, elle pond.
Tu peux allumer l'autre lumière ?
Ouais.
Ah ouais, voilà.
Approchez-vous. Donc voilà.
Voilà, oh, c'est magnifique. Hein.
Attention là, le sable.
Il ne fait pas tomber le sable. Un petit trou là, tu vois là ? Il dans l'axe, là, ouais. Une espèce de truc luisant, blanc.
Ouais, ce sont les yeux.
Tu lui soulèves quoi, la patte ?
Tu vois les yeux ?
Ah oui, oui.
Puis il y a un petit nouveau qui descend.
Et donc, de là où elle a pondu, jusque là où elle va partir, elle va faire au moins 1,50 m. Tu entends comment elle souffle ? Bien là où elle a pondu.
Elle a fini sa pente. Hein.
Ouais.
Je sais avec ses deux pattes arrière, comme elle pousse.
Les tortues n'ont aucun lien maternel. C'est-à-dire c'est le travail de la mère, c'est tout.
Voilà, elle se démène pendant toute une nuit, mais c'est tout ce qu'elle fera de jamais pour ses bébés.
Ils ne se verront jamais. Et personne ne saura c'est ma mère ou bien c'est ma soeur. Ah, c'est un monde... magnifique ou bien.
Ou bien.
Il y a une tortue, quand elle a pondu, elle a fini de pondre les quatre fois par saison de ponte, elle va migrer. Et donc si elle migre, elle est suivie par deux mâles. Mais ce sont des mâles qui ont suivi une femme qui n'est pas à consommer. Quoi. Donc aussitôt qu'ils rencontrent une autre femelle qui est consommable, ils s'en vont. Et la plupart du temps, ils restent là où ils ont croisé la nouvelle préférée. Quoi. Si par exemple, elle a migré jusqu'en Afrique du Sud, ça veut dire qu'elle a été accompagnée avec deux mâles jusqu'en Afrique du Sud. Mais revenir ici, elle reviendra avec des mâles d'Afrique du Sud.
Ah. Sans visa, sans papier.
Ouais, en fait, c'est une reine. C'est la délégation officielle.
On entend respirer, c'est impressionnant. Hein.
Voilà, sur la plage des tortues à Itzamia, à Moli, dans les Comores. Et vous voyez, hein, comment naissent les mythes et les mythologies. On a évoqué des mythologies anciennes, dont la tortue est la figure. Mais voilà, dans ce village, la tortue est vénérée parce que elle a des pouvoirs. Et les pouvoirs de la tortue, c'est que, eh ben, elle fait venir les touristes. Et qui dit faire venir les touristes dit que la route est bitumée.
Et donc, ben voilà, c'est les pouvoirs de la tortue. Et puis qu'on reçoit Internet dans ce village. Et voilà, c'est à cause de la tortue qui est vénérée, qui est une personne, pas tout à fait une personne, mais un peu une divinité, qui a des pouvoirs et qui doit être respectée, qui doit être vénérée. Et voilà comment s'installent des mythes. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est comme ça. Et, sauf que là, c'est aujourd'hui. Sauf que là, c'est aujourd'hui, on voit la naissance d'un mythe à l'usage de nos jours et à notre usage à nous, qui sommes dans cette nuit délicieuse et parfumée, la nuit des tortues.
Décale un peu là par rapport à tout à l'heure.
Ouais, en fait elle avance doucement, elle bouge, elle recouvre en avançant un peu. Et voilà, elle commence de chercher de loin le sang.
Ouais, ouais, elle va chercher sur les côtés, elle rabat derrière elle avec ses pattes arrière. Et là notre présence,
elle s'en fout, c'est elle a déjà pondu. Elle a un objectif, c'est de bien couvrir ses œufs. Si tu es là, si tu n'es pas là, si tu allumes, si tu pètes, si tu fais pas son problème. Mais avant ça, si elle ressent que tu es là, elle fait demi-tour parce que là, tu veux qu'elle dépose ses œufs et puis tu les voles. Celui-là, elle est vieille, hein. Pas moins de 70 ans, hein, j'en suis sûr.
Ça veut dire que cette tortue-là, elle est née dans les années 30.
Ouais.
Elle a connu le Front Populaire. Le pacte germano-soviétique.
Mais elle était française surtout.
C'est vrai.
C'est une tortue française. Et c'est à nous cette tortue. C'est une tortue d'avant l'indépendance, ça les gars. Faut peut-être nous la rendre cette tortue.
Ah,
eh ben oui. C'est pour ça qu'elle est encore en bonne santé, parce que c'est une tortue française.
Tu crois que si. Elle était comorée, elle aurait dû être malade.
Bah, écoute, quelle est l'espérance de vie?
Ouais, tu as raison.
Ah, voilà.
Alors, elle sort ses pattes de devant. Et là, on se lève parce que...
Ah, on voit sa tête, regarde, maintenant.
Ah, ouais, ça y est.
Maintenant, elle va commencer à utiliser les grands calibres.
Les grands calibres, elle est pelleteuse.
Donc, elle peut relancer jusqu'à 6 mètres le sang.
Ah oui,
c'est pas maintenant, mais...
Ouf. Attention. Ah, c'est étonnant, les pattes de devant qui se mettent à jeter du sable. Ouf! Une puissance, dis donc, c'est extraordinaire!
Voilà, elle enlève la branche qu'elle avait cassée au passé, donc il la gêne un peu.
Vous êtes bien aidé, madame.
Hein?
Fallait dire merci. Tu vois ce qui se passe, hein? Elle envoie avec les pattes avant, mais elle arrange avec les pattes arrière. Pour qu'elle rebouche, elle recouvre vraiment là où il y a les yeux. Ok, Daniel, tu
allez.
As sommeil?
Hein?
Tu as sommeil?
Ouais. Ouais. Ok.
C'est déjà pour un moment, elle, encore.
À Mayotte et dans les Comores. Merci à tous. Merci à Anfani et à sa famille, Msweli et son frère Daoumi, aux habitants du village Itsamia, Salim, Jabir, Salim. Merci à Rémi, Karayol, Nassouf, Jelani, Kamal, Ali, Yehuda et Lisa du journal Kashkazi, www.kashkazi.com. N'oubliez pas ce journal que nous soutenons, bien sûr. Merci à Frédéric et Frédéric Hannequin. Merci à Pierre Caminade, Isabelle et Ahmed Mohamed. Merci à Mahmoud Ibrahim, Aboubakar M. Shangana, Aboubakar Saïd Salim. Merci à Jimmy, merci Oscar et Dimo et aux musiciens du groupe Asmin Band d'Adomoni. Merci à Aboulatif Mohamed et à Monsieur Dollar. Merci Abdallah, Youssouf Ali, Dadoud Bakar, Hamid Ali Saouf, à Michel Teffer, à Mariam, à Jbouéni Bouchi, à Mahmoud, à Cédric Jorgensen de l'Assemblée Nationale, à Patrick Moïlik, à Mansour, à Zenabou, Madame Zenabou, merci. Merci à Braza, Ahmed Hussein, Moussa, Ahmed, Abdou, Omar et Anfani, Pierre, Paul Laner, Sakmal et Nicole de RFO. Merci aussi au lieutenant Balrini et à son équipage. Et à tous ceux que l'on oublie de citer, qui nous pardonneront, merci. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France. À la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, c'était une suite de reportages avec Guy Van Thiel. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. C'est Antoine Chao, Yann Schuker et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assisté de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert, qui s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.